suis le premier NGJOL à être né à Paris, en France. Quand même une certaine fierté quand j'étais petit.
Ah oui?
Bah oui, parce que tu le rappelles toujours à tes frères. Je suis né en France, de toute façon. Parce qu'à l'époque, c'était Le Pen. Hein. Faire attention. Hein. Le Pen, il gueulait. Il se dit, si ça part en sucette en France, excusez-moi d'être dans mon pays, moi. Ça sera un peu dommage pour vous, mais on gardera le contact. J'essaierai de passer vous voir de temps à autre. Non, moi, j'étais français. Tout de suite, c'était réglé.
Une échappée avec Thomas Ngijol, c'est totémique jusqu'à la prochaine heure. Il était là, debout et en larmes, sur la scène du théâtre Croisette à Cannes. Son film Indomptable venait d'être projeté parce que sélectionné à la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes, et vous pourrez le voir en salle mercredi prochain. L'histoire est inspirée d'un documentaire que Thomas Ngijol a vu sur Arte à la fin des années 90. Ce docu, réalisé par Mosco Bucco, s'intitule Un crime à Abidjan. Thomas Ngijol en a transposé l'action à Yaoundé, au Cameroun donc. Après des débuts dans la comédie, sur scène et au cinéma, il joue un commissaire ombrageux, parfois tellement rude qu'il en devient burlesque, sans que le film ne bascule totalement dans la comédie. Indomptable est le portrait d'un homme et la chronique d'un pays. J'ai retrouvé Thomas Ngijol à l'est de Paris et on a marché jusqu'au café.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous venez d'où, excusez-moi, Rebecca?
Là, tout de suite, là?
Ouais, oui.
De
ouais.
Saint...
Les origines, alors. Où est-ce que votre histoire a commencé, Rebecca? J'ai envie de tout savoir.
En Italie.
En Italie? Quelle région?
Le Nord.
Ah, je connais pas trop la région du Nord. Enfin, je connais pas du tout les régions d'Italie. Mais comme je suis très branché foot, le foot permet de connaître, en fait, la géographie même politique de l'Italie.
Mais d'ailleurs, Indomptable, c'est forcément un clin d'œil à l'équipe nationale du Cameroun aussi.
C'est sûr que c'est un clin d'œil. Mais en même temps, ça correspond tellement bien à l'état d'esprit du peuple camerounais. Et ça correspond tellement bien à tous les personnages, enfin tout, à beaucoup des personnages du film, que c'était pour moi une évidence, en fait. Enfin, c'est... Le film aurait pu s'appeler Les Fortes Têtes aussi, quoi.
C'est là ? Ok.
On a traversé un resto pour s'installer tout au fond, en terrasse. Des fortes têtes, il y en a dans les rues de Yaoundé. Et le commissaire Bilong, que Thomas Ngijol interprète, y fait face avec autorité et efficacité. Dans la famille du commissaire, c'est idem. Des fortes têtes versus son autorité. Mais pour l'efficacité, c'est moins garanti. Extrait d'Indomptable entre le commissaire Bilong et sa fille, interprétée par Ariane Ntomba. Nota bene, dans la vie, Ariane Ntomba est joueuse pro dans un club de foot camerounais.
Tu viens faire quoi ici?
Est-ce que tu m'as déjà vu faire le potoir?
Ne viens pas faire ton scandale ici.
Bien compris. Réponds-moi seulement.
Je te réponds.
Arrête de colporter des rumeurs sur moi. Laisse-moi tranquille.
Parle doucement. Parle doucement. Tu te crois où là?
Ça va, j'ai fini.
Tu as fini où? Viens ici. Viens ici. Viens ici. Adeline, il faut faire attention comment tu t'adresses à moi. Hein. Fais très attention à tes paroles.
Tu me demandes de faire attention.
Fais attention à tes paroles. Même le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Le nom même de ton arrière-grand-mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça.
Tu me parles de tradition.
Je me suis battu pour que tu aies ce
encore
nom-là.
Encore et toujours des traditions.
Je parle de tradition.
Parle-moi comme un père. Sois un peu présent pour ta famille. Le vieux, prends tes responsabilités en main. Ton travail a pris le dessus sur tout.
Le commissaire Bilong a aussi des fils, à qui il tente d'expliquer la vie en toute délicatesse avec ce genre de questions. Tu sais comment le chanteur Marvin Gaye est mort? Son père lui a tiré dessus.
Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter derrière ça? Je ne sais pas. Ça dit beaucoup de choses. Bah, ça situe notre personnage, ça situe notre propos. Et c'est simplement quelqu'un qui n'a pas les codes pour aimer, pour dire les choses, on va dire, d'une certaine façon. Donc il est dit à sa manière. J'ai grandi dans un climat comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'autobiographie dans ce film. Et c'est pas...
Dans un climat comment? Silencieux?
Oh, oui. Vous savez, nous, dans nos foyers, on ne parle pas beaucoup, hein. On parle très peu, enfin on parle pas beaucoup, la communication est très dure. Maintenant j'ai la chance d'être grand et de pouvoir beaucoup plus parler. Et puis les gens, ça s'agisse avec le temps, les parents deviennent grands-parents, ils ont des petits-enfants. Et voilà, mais c'est sûr que non, quand je dis nous, c'est, je parle vraiment globalement, ça dépasse le Cameroun, ça dépasse l'Afrique. C'est, en tout cas, de ce que je connais dans les quartiers populaires, c'est très fréquent. Et j'ai presque envie de dire, nos amis bourgeois ne sont pas exemptés aussi. La bourgeoisie aussi en communication, derrière les cuirs en argent et tout, il y a des communications très, très, très compliquées. Donc c'est un sujet assez universel au final. Donc ce film-là, je fais des digressions, excusez-moi, mais je le fais aussi pour mes enfants, pour les sauver, pour pouvoir faire en sorte qu'on parle toujours. Parce que je les assomme de mots, vu que j'en ai manqué. Moi, je parle matin, soir, midi. Dès qu'elles vont à l'école, il y a 7 phrases en trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux pas qu'elles souffrent de ça.
Mais tel que le film est écrit, et de l'importance de ce personnage, et sachant qu'il est inspiré par la figure de votre père,
ouais,
on a la sensation que votre père, c'est un cap, qui fixe une ambition, comme un objectif à atteindre.
Être à la hauteur d'un père qui a gravi l'Everest, c'est pas toujours évident pour les enfants.
Votre père, il a gravi quel Everest ?
Il est en France déjà, mon père. Il est venu de son pays, il a quitté...
Le Cameroun ?
Il a quitté le Cameroun, il a quitté ses parents, il a quitté beaucoup de choses, comme beaucoup de gens. Rien que ça, déjà, ça mérite tout le respect du monde. Moi, je m'ai dit, au même âge qu'il avait à l'époque, de quitter la France pour aller autre part. Moi, déjà, prendre le RERD, c'était beaucoup. Hein. Non, mais c'est... On se rend pas compte, en fait, parce que ça devient des phrases génériques, mais c'est vrai que de quitter sa famille, de quitter pour aller dans le pays qui vous a colonisé, c'est quand même fou. Il y a un rapport schizophrénique à ça, en fait. Et pour donner une chance à ses enfants dans le pays qui vous a... C'est complètement limite absurde, quoi. Vous savez, l'important, nous... Enfin, moi, je parle de nous. Quand je dis nous, c'est un peu ma famille, on va dire. Mais c'était d'être dans la mêlée, en fait. C'est-à-dire de pas faire honte. Surtout d'être au niveau d'exigence. Et après, nous, on a nos propres rêves, on a nos propres objectifs. Et c'est là où ça les dépasse. C'est qu'on doit suivre aussi notre parcours, notre chemin, nos envies. On est responsable de rien, les enfants. Moi, je n'ai pas demandé à naître dans le 12e à Paris. Quand mon père me rabâchait ses histoires ou ma mère ses histoires, j'ai dit oui, mais désolé, moi, je suis qu'un petit mec de Maison Alfort. D'accord, quoi, je vais essayer de faire ce que je peux, mais je suis pas responsable.
Au-delà de l'histoire du pays, il vous a transmis quoi, votre père ?
Au final, il nous a transmis que de l'amour, en fait. De l'amour en bordel, quoi. C'est juste désordonné, de l'amour bancal, de l'amour bordélique, brutal. Parce qu'il a fait avec les moyens qu'il avait, en fait. Et puis, au-delà de ça, il nous a transmis beaucoup de... Ouais, la fierté, l'honneur, c'est chiant ça, parce que franchement, c'est, en termes d'ego, c'est pas évident à gérer la fierté et l'honneur. Mais c'est une droiture dans la vie, c'est important. Et c'est toujours le même truc, c'est se respecter soi-même, la parole, tout un tas de choses, et de ne pas reproduire à d'autres personnes ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. Je sais pas, il y a quelque chose de très fort, en fait, dans l'honneur. Moi, je suis très accroché à ça, et puis surtout, ça a surtout apporté l'amour de notre pays d'origine. Parce qu'il faut bien que notre histoire commence quelque part. Je vous disais tout à l'heure avec beaucoup de fierté que j'étais français, mais je suis d'origine étrangère, j'ai la peau noire, donc mon histoire elle commence au Cameroun. Et ça, c'est aussi très important, surtout pour mes enfants, qu'ils sachent que leur histoire vient de loin et qu'on y est accroché. Et ça, c'est aussi important pour leur construction à elles. Et puis... Moi, j'adore vieillir, en fait. J'adore le poids du temps, le poids de l'âge, parce que je lui ressemble de plus en plus, mais avec en enlevant certaines choses. Et j'aime bien cette idée, en fait. J'aime bien cette idée parce que mon père, comme plein d'autres, c'est des gens gentils et qu'ils ont grandi. Justement, on n'en parle pas assez, mais c'est des gens qui ont grandi sous la guerre, qui ont grandi en période coloniale, qui ont justement la moitié ne nous parle même pas de certaines étapes de leur jeunesse. Parce qu'ils ont grandi dans des conditions difficiles. Je pense aux parents issus du Maghreb, de l'Algérie, par exemple, d'Afrique noire et même d'Asie, les Cambodgiens et autres. On peut citer plein d'autres nations, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est des gens qui en ont gros sur la patate et qui veulent juste le bien, au final. Ils veulent rien d'autre que leur famille soit bien, ils veulent leur mettre à l'aise, parce qu'ils ont vraiment un côté où ils se sont limite cachés, quoi. Ils veulent pas de problème, c'est toujours ça, en fait. pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la honte et tout. Restez un peu dans la mêlée, vous faites pas remarquer. Et c'est des gens gentils, moi, c'est ce que je retiens au final. Ils étaient pas durs, comme je vous dis, c'était vraiment l'amour bordélique. Au final, eux, ils voulaient faire des familles et donner un avenir meilleur à leurs enfants, à leur famille. Et en ça, moi, je trouve ça magnifique, en fait.
Extrait d'un album à venir, signé Bertrand Belin, avec ce beau texte intitulé « L'inconnu en personne ».
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Thomas Ndjijol a surtout écrit, joué des comédies, et le voici réalisateur d'Indomptable, un polar en salle mercredi prochain. Il a choisi de tourner le film au Cameroun, à Yaoundé, et on découvre la ville au volant d'une voiture, de jour comme de nuit. Aller-retour, Paris-Yaoundé, c'est totémique jusqu'à 10h.
En étant né à Paris 12e, en ayant grandi à Maison Alfort, à quel moment vous vous êtes senti camerounais aussi ?
Je pense que j'ai pas pris conscience d'être noir tout de suite, parce que j'ai plutôt bien grandi. J'ai conduit en terrain non hostile, en termes d'habitation, de voisinage, scolairement. Et puis j'ai découvert le Cameroun à 5 ans, moi. Donc j'ai vu mes grands-mères, mes grands frères sont tous nés là-bas, moi je suis le premier Ndjijol être né à Paris, en France, comme une certaine fierté quand j'étais petit.
Ah oui ?
Bah oui, parce que tu le rappelles toujours à tes frères. Je suis né en France, de toute façon. Parce qu'à l'époque, c'était Le Pen, hein. Faire attention. Hein. Le Pen, il gueulait, il se dit, si ça part en sucette en France, excusez-moi d'être dans mon pays, moi. Ça sera un peu dommage pour vous, mais on gardera le contact. J'essaierai de passer vous voir de temps à autre. Non, moi, j'étais français, tout de suite, c'était réglé. Et c'est vraiment une chance incroyable que j'ai eue, et avec mes frères d'ailleurs, de pouvoir faire des allers-retours, parce que le travail de mon père, nous, on avait un peu cette facilité à aller au Cameroun à chaque vacances scolaires, quasiment.
Pourquoi ? Il faisait quoi ?
Il travaillait à Cameroun Airlines, qui est l'équivalent d'Air France, qui permettait que, voilà, on avait de la chance d'avoir des billets un peu à des tarifs plus préférentiels, et qui fait que je n'ai jamais eu de carence par rapport à mes origines camerounaises, et ni de fantasme ou de... Voilà, j'y allais naturellement.
Vous avez dit, quand j'étais petit, j'avais pas conscience d'être noir. Cette conscience, elle serait arrivée quand ?
Quand on grandit. quand on grandit et qu'on voit le regard des gens qui commencent à changer. C'est aussi simple que ça, quand on a nos premiers fameux contacts avec le racisme. Ça existait quand j'étais petit, ça existe toujours aujourd'hui. Je l'expérimente quasiment souvent, une fois par semaine minimum. Mais c'est, je suis vacciné, c'est bon, ça me fait rien. Tant que ça touche pas mes enfants, ça me fait rien. Moi, on a du travail, Rebecca. Croyez-moi qu'on a du travail.
Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es camerounais, non?
Oui.
Voilà. Donc tu es intelligent.
Début d'une scène d'interrogatoire dans Indomptable de Thomas Ngijol. Il interprète le commissaire Bilong, un homme qui enquête sur le meurtre d'un policier au cœur de Yaoundé, entre embouteillage monstre, service public défaillant et à la fin de cet extrait, coupure d'électricité.
Quand tu es impliqué dans un sale coup, tu dis oui, mais j'étais pas seul. Là, tu as fait le malin de tes amis, là, on fuit. Tu as payé. Seul, tu as payé pour eux. Ça, c'est bête. Donc là, il faut me raconter ce qui s'est passé. Parce que nous, on est déjà au courant. Alors, c'est pas la peine d'insister. Ouais. Et qui est le pays, là, c'est pas possible. Comment on peut travailler dans des conditions pareilles?
Moi, je voulais pas faire un film clean. Hein. Je voulais pas faire un Cameroun fantasmé avec des gens qui s'arrêtent au feu rouge. On laisse. Non. J'ai fait un film dans la société contemporaine. Donc, effectivement, il y a des choses au niveau social ou médical qui sont, on va dire, un peu alarmantes quand on regarde ça des fois avec le prisme occidental. Parce que eux, en fait, là-bas, évidemment que c'est pas toujours facile, mais ils avancent. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas du tout eu une démarche d'apporter un jugement aucun sur ce système-là est défaillant, celui-ci est bien. Non, je ne voulais pas faire Afrique is beautiful et ni dénigrer le Cameroun. Loin de là, je voulais être honnête et sincère. Une fois qu'on a été sincère, bah, évidemment, il y a des choses peut-être très belles que je vais filmer, d'autres qui vont faire un peu plus grincer, mais tout est dans une démarche de sincérité et pas de posture.
Mais quand vous dites « je voulais pas faire un film clean », dans l'image même, dans le grain de l'image, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce côté palisse, quoi. Vous avez travaillé ça avec le chef-op, justement ?
Complètement, oui. Bah, je voulais pas d'une image trop sophistiquée, trop léchée. J'adore ce film, par exemple Moonlight, mais c'est pas Moonlight. Moi, je voulais pas rendre les peaux noires sublimes ou avoir un côté bleuté, styliser le film. C'est pas du tout un film stylisé. Moi, je voulais qu'on soit au plus près des personnages, qu'on soit toujours à taille humaine, qu'on profite des beaux moments que nous offrent naturellement les décors, que nous offrent naturellement les choses, quoi. Mais même en termes de maquillage, on n'a pas stylisé les choses. On partait de la base des gens. Je voulais juste qu'ils soient beaux, naturellement. Donc la caméra se devait d'être à ce niveau-là aussi.
Vous jouez avec un accent.
Oui.
Comment vous avez travaillé ça? Est-ce que ça vous a fait jouer différemment?
Comment l'accent j'ai appréhendé? C'est délicat d'être avec l'accent. Alors, autant quand je suis en France, ça va. Je ne me pose pas trop de questions, parce que cet accent, je le connais depuis que je suis tout petit. Comme je vous l'ai dit, j'allais au Cameroun depuis tout petit, à la maison, entre les parents, les oncles, les patati et patata. C'est une chanson que je connais, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette chanson pratiquée au Cameroun, c'est autre chose. Eux, ils jouent pas, ils vivent les choses. Moi, ici, si je prends d'un coup l'accent, il n'y a pas de référent autour de moi. Donc, je suis beaucoup plus libre. Alors que là, j'ai que des référents autour de moi. Donc,
il fallait être juste.
Il fallait être juste. Voilà. Là, je fais une faute d'accent, personne ne va me corriger. Mais moi, je crois que je suis au top. Alors que là, c'était différent. Donc, il y avait une vraie démarche. Mais après, j'ai travaillé de façon très bizarre. Et à un moment donné où j'ai dit, on y va, quoi, on se pose plus de questions. L'accent, tu le connais, donc tu vas pas commencer à être en acteur studio. Là, t'es pas Robert De Niro, tu vas te détendre. Tu vas dans la ville, tu te fonds dans la masse, tu parles, tu joues, tu vis. Et en fait, quand tu vis, bah, on fait pas gaffe. T'es pas en train de faire un espèce de mimétisme, en fait. Je pense que c'est là où on connecte vraiment, si je puis dire, avec beaucoup d'humilité, au métier de comédien. Parce qu'en fait, c'est quand on se fond, on est dedans, en fait, il n'y a pas d'histoire de technique ou autre. Je mentirais si je lui disais que j'ai beaucoup travaillé. Si ça, je baignais dedans et mon rôle était d'être un des leurs tout le temps. Il n'y avait plus de Thomas de Maison Alfort, né à Paris, qui vit là. C'est fini. Tu es là-bas, tu vis localement. Et c'était ça mon challenge, en fait. Me fondre dans la masse.
Il a été question de se fondre dans la masse ici. Et pour le tournage, il a été question de se fondre dans la masse là-bas.
Ouais. On est schizophrène, hein. Non, mais ici, je ne me suis pas fondu dans la masse, ici. Hein. Je suis la masse. Je suis un enfant de la masse.
Ouais, mais quand vous parliez du discours de vos parents, eux voulaient que vous vous fondiez dans la masse, justement. Ah,
excusez-moi, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pour d'autres raisons. Mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Mais... Voilà, vous êtes forte. Ouais, mais à chaque fois, bah, c'est encore un nouveau parallèle là, que vous êtes en train de faire, mais qui peut être troublant et qui peut en même temps... Voilà, la boucle est bouclée. Je me suis fondu la masse en France. Je n'ai pas fait trop de bouquins et trop de bordel. Et puis le fait de me fondre dans la masse en France a servi à ce que je me fonde bien dans la masse au pays de papa, maman et des grands-parents. Donc une fois de plus, comment ne pas leur dédier ce film.
Il y a un accessoire aussi qui est lié à ce personnage. Il a en permanence ses clés de voiture dans la main.
Ouais.
Avec une espèce de petit pompon au bout.
Ouais.
Tout le temps.
Ouais. En fait, dans ces sociétés, voilà, mon personnage, il est... Alors, il est un peu flegmatique, il n'est pas... Voilà, c'est pas un mec qui fume des clopes. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais c'est un truc très paternel. Moi, je me souviens de mon père et d'autres. Il y avait une fierté dans les clés de voiture. Ouais, il ne les quittait pas. Ils étaient tout le temps là à parler, et pour peu qu'ils avaient une Ford Escort. Alors là, les clés, elles volaient, quoi. On a compris, tonton, t'as une Ford, calme-toi. Mais ouais, non, là, il y a un truc avec la clé de voiture. Alors ça, c'est dans mon imaginaire, mais pas que. Je pense que, ouais, la clé, il y a un truc, le côté à l'ancienne, ils étaient toujours avec ça. Je trouvais ça charmant, moi.
C'est un changement de registre radical par rapport à votre parcours jusqu'ici, où vous avez commencé dans le stand-up, au Jamel Comedy Club, à réaliser, à co-réaliser des films, notamment avec Fabrice Eboué, dans le registre de la comédie.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et là, c'est complètement...
Bah oui, mais en même temps, ça suit mon parcours d'homme. Avant d'être artiste ou comédien ou stand-upper ou réalisateur, ce qu'on veut... Je suis Thomas Ndjijol, je suis un homme, on m'a connu jeune homme dans ce métier. Et aujourd'hui, je suis papa, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, je pourrais même être grand-père à tout moment. Donc il y a un moment donné où c'est ça qui me passionne, moi. C'est ma vie d'homme et je continuerai, quoi qu'il en soit. La comédie, j'adore ça, mais c'est simplement que... Avec le temps, et ça qui est agréable, c'est qu'on touche à d'autres choses, on touche à d'autres zones. Moi, ces zones-là, elles sont essentielles. Pour moi, c'était viscéral de faire ce film. Je suis sorti de mon dernier spectacle. J'avais, dans la transmission, j'avais touché quelque chose d'assez puissant avec mes enfants.
Et j'avais Parce que dans ce dernier spectacle, il était question notamment de vos enfants.
Oui. Et j'avais envie, en fait, de continuer à creuser ça. J'avais envie de donner du sens, en fait, à mon travail et de creuser encore plus. Mais c'était l'appui personnel. Évidemment, pour les gens, ils se disent « Waouh, changement de registre », ce que je peux comprendre. Mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Il n'y a rien de forcé, il n'y a pas de posture, il n'y a pas un syndrome de Chao-Panta où je dis « Il est temps maintenant que je fasse chialer la France ». Non, pas du tout. C'est une démarche très sincère ou très honnête, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais vraiment, ça a glissé tout seul, quoi.
France Inter, Totemic.
I know.
Pour Totémique, je demande à l'invité de choisir une voix. Alors certaines reviennent régulièrement, comme celle de Jacques Brel, par exemple. Mais là, pour la toute première fois, en plus de 20 ans d'interview, ma bonne dame, Thomas Ndjijol a voulu écouter la voix de Jean-Roger Milhaud. Jean-Roger Milhaud est mort il y a 2 ans, à l'âge de 66 ans, et on pourrait le présenter comme un cousin de Michel Simon. Il disait « Même ceux dont la gueule dégage un soupçon de folie rêvent parfois d'un rôle coin du feu ». Jean-Roger Milhaud a joué dans Germinal, de Claude Berry, dans Lucie Aubrac, du même Berry. Le voici dans un extrait, Lucie Aubrac avec Carole Bouquet. Il interprète Maurice David, un tailleur résistant, qui annonce l'arrestation de Raymond Aubrac et de ses compagnons à Lucie.
Quand Annie, qui assistait à l'arrestation par hasard, m'a tout raconté, ça s'est passé très vite, tu sais. Il les a vus arriver 5 minutes après, la Gestapo était là. Ils les ont tous embarqués. Un seul a pu s'enfuir, ils lui ont tiré dessus, mais il a pu s'échapper.
On sait qui est.
Non, mais on va le savoir.
Mais comment ils ont eu l'adresse? Par là, ça, une personne la connaissait. C'était une réunion secrète.
Ils ont sûrement été suivis.
J'adore. Vous voulez que je vous raconte le pourquoi du comment?
Ah ouais.
Mais c'était mon voisin, en fait. On habitait dans le même immeuble, la maison Alfort. Il s'appelle pas Jean-Roger Milhaud, il s'appelle Saoud. Il habitait au premier étage, donc avec son père qui était un chebani, comme on dit. Et Saoud, c'était le caïd du quartier, c'était le mec le plus dangereux du quartier. Mais c'était un mec qui avait beaucoup de cœur. Il capitalise pas sur ça derrière, dans le sens où il veut pas être le voyou du cinéma. Ou voilà, est-ce qu'il sait ce que c'est en fait? Il triche pas. Cette intégrité, pardon, je la trouve extraordinaire et magnifique. Et quand je voyais, j'ai vu des interviews de lui, il est touchant, quoi. Il a un truc où, voilà, il était peut-être trop touchant pour ce métier, qu'il a fui, en fait, après. Et que j'ai même cette espèce de... Alors, je me compare pas du tout à lui, mais je me reconnais dans une sorte de pudeur, en fait, parce qu'on vient du même endroit. Et je sais que ce monsieur a... inconsciemment beaucoup travaillé dans mon imaginaire, en fait, parce que de voir un mec de son immeuble qui faisait du cinéma, et ben je sais que ça a ouvert quelque chose en moi, en fait, et ça c'est sûr. Donc aujourd'hui il n'est plus, et justement je pense beaucoup à lui, et je lui ai même écrit avant qu'il parte, j'avais écrit pour lui dire merci. Moi c'est des parcours, voilà, qui m'inspirent, donc c'est pour ça que je suis content de lui rendre hommage aujourd'hui, que si ça peut servir à des gens de s'intéresser à son parcours, c'est mon humble devoir de voisin et de petit, du petit Thomas du 5e, parce qu'il nous appelait les petits noirs. Ouais. Ça, les petits noirs, il se faisait pas chier à dire le prénom de mes frères et moi. Il était, voilà, c'est le souvenir lointain que j'ai de lui, quoi. Voilà, mais c'était mignon. C'était une autre époque.
Avant de monter sur scène, vous avez fait d'autres boulots?
Ah oui, moi déjà je devais être instit. Moi j'allais passer mon concours, mais bon, je commençais à être un peu très sérieux sur scène, donc j'ai pas passé mon concours. J'étais aide éducateur, donc j'ai été animateur dans mon quartier.
Ça vous a plu?
Ah mais j'adorais, moi. Moi tout ce qui est lié à l'enfance, j'adorais. De toute façon, je voulais avoir des enfants, donc je sais pas si les autres enfants étaient mes enfants par procuration. Et figurez-vous que j'ai croisé, en rentrant de Cannes, un jeune homme qui vient et qui me dit « Thomas !» Et je le regarde, c'était un taxi-moto, je dis « Oui !» Et en fait, c'était un jeune homme que j'avais quand j'étais petit, un jeune homme de mon quartier, qui me dit « Tu t'en rappelles quand t'étais notre animateur ?» Et il me disait que des choses positives. Ça m'a touché, en fait, ça, tout, parce qu'en fait, ouais, j'adore les enfants. Et mon rêve, c'est d'être stabilisé et d'être entraîneur de foot avec des enfants. J'adorerais faire ça, mais j'ai pas tellement le temps, là.
Et alors, la comédie, c'est venu comment ?
Je pense que c'est venu nerveusement.
Nerveusement ?
Ouais. Moi, j'ai le souvenir de toujours rire nerveusement quand j'étais petit, dans le sens où je n'assumais pas de rire, en fait. Mais quand je voyais des grands, moi, j'ai que des grands frères. Et des fois, ils me faisaient rire, mais sans s'en rendre compte. Bon, mes grands frères, ils ont connu le début du hip-hop et tout. C'était dramatique, c'était ridicule.
En quoi c'était dramatique?
Oui, danser sur des cartons. Écoutez, à un moment donné, quand on danse sur des cartons...
Pour faire du breakdance?
Ben oui, ben on va pas commencer. C'est ridicule, quand on est petit, un petit garçon, qu'est-ce qu'il fait avec ce carton? Il est débile. Ah d'accord, maintenant, il faut se mettre sur le dos et tourner. Bon, allez, moi, c'est trop. Je rentre à la maison, il y a Pac-Man. ça va pas du tout. Voilà. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça. Là. Mais la vie de quartier, elle était extraordinaire à cette époque. Et je sais que je riais beaucoup nerveusement parce que j'avais une sorte de honte, j'avais des bouffées de chaleur. Et comme à la maison aussi, des fois mon père, malgré tout, dans toutes ces excès, c'était n'importe quoi. Donc je n'osais pas rire. Et en même temps, voilà. Donc non, la comédie, c'est arrivé, c'était un moyen de survie. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Parce qu'au final, je ris de choses qui me peinent ou qui me choquent ou autre. Donc c'est une façon aussi d'extérioriser certaines colères, certaines angoisses ou autres. Après, évidemment qu'il y a des choses plus légères. Il faut équilibrer, mais il y a toujours une part de survie un peu dans la comédie.
Et mon père, tu sais, quand il est énervé à ce niveau-là, il est là en plein salon.
Extrait de A Bloc, spectacle que Thomas Ndjijol a joué en 2009.
Et pour se calmer, il chante du blues. Il est là. Éteignez la lumière. Allez, sortez du salon. Je peux te gifler. Tu vas arriver à Yaoundé sans correspondance. Sortez du salon. Boum, 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 boum. Ma vie est foutue. Boum, 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 boum. Mes enfants m'ont bafoué. Boum, 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 boum. Le loyer n'est pas encore payé. Boum, boum, boum. Et ma femme ne fait que prier. Ah, j'ai le blues. Boum, boum. Boum, 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 boum. L'expérience prouve que j'ai le blues.
On passe à votre carte blanche ?
Allez, passons à ma carte blanche. Mais est-ce qu'on peut l'écouter ?
Ah, vous voulez l'écouter ?
Ok. Bah oui, parce qu'en fait...
Je pensais que vous vouliez la lire. Alors.
Je préférais l'écouter que la lire.
Je pensais que vous alliez la chanter, même.
Oh, voilà, si vous saviez.
Il faut tourner la page.
Pour Totemic.
Changer de paysage.
Thomas Ndjijol a choisi Claude Nougaro.
Le pied sur une berge.
Il faut tourner la page, c'est le titre de ce morceau.
Vierge. Il faut tourner la page.
Bah, ça fait partie des chansons qui... Alors, j'ai presque envie de dire qu'elle me fait pleurer. Elle me touche, elle est mi-nostalgique et en même temps elle me fait aller de l'avant. Et vraiment, je l'écoute pas n'importe comment et n'importe quand. Il faut que je sois bien. Et si je suis dans un moment de fragilité, je zappe, j'avance. Mais je trouve qu'elle est super. Elle est bizarrement pas si connue. J'ai l'impression que les gens... Voilà, mais ça fait partie d'un album que j'adore de Nougaro, qui est l'album Nougayor, qui, je sais pas quand il est sorti d'ailleurs, dans les années 80, milieu 80, sûrement. Et que j'aimais quand j'étais jeune, mais sans vraiment écouter l'album, et que j'ai redécouvert, mais avec un plaisir en grandissant.
Redevenir tout simple, comme ces âmes saintes, disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page.
Mais il touchait l'âme de toute façon, Claude Nougaro. Il fait partie de ces artistes qui... ça n'existe plus. Un monsieur avec des lunettes qui vient en chemise, qui transpire sur scène et qui remplit des zéniths, des Olympias et tout ça.
Comment ça, ça n'existe plus ?
Bah écoutez, vous imaginez Claude Nougaro aujourd'hui avec un compte Instagram ? Non, il n'y a plus de Claude Nougaro maintenant. L'apparence a pris beaucoup trop de place. Je critique pas, c'est un fait.
Là, vous êtes en train de dire que c'était mieux avant, quoi.
C'était différent. Ça ne veut pas dire que les gens d'aujourd'hui n'ont pas de talent. Il y a du talent, mais il y a d'autres enjeux qui se sont greffés au game, comme on dit, et qui sont pas toujours faciles à gérer, parce qu'il y a des artistes qui ont peut-être pas le format, voilà, mais je veux pas jouer, non, je veux pas jouer au vieux con. Après, moi, c'est mon époque, hein, j'ai grandi avec ça, je ne renie pas mon époque. Mon époque, pour moi, c'est la meilleure. C'est contre les vieux ploucs, là, qui me font chier avec téléphone, et c'est contre les jeunes cons qui me font chier avec, je sais pas quel rappeur, Damso ou quoi. Moi, je suis d'une autre époque et je l'assume, et je suis très prétentieux par rapport à ça, parce que je pense que j'ai vécu la meilleure époque.
La dernière séquence de l'émission, c'est une séance photo.
Ah bon ?
Oh, bah, je suis arrivée, vous étiez en train d'en prendre une.
Bah, vous ne saviez pas à quel point j'angoissais.
Ah bon ?
Ah bah oui.
Vous n'avez pas l'air, vous donnez vachement bien le change. Hein.
Mais c'est ça, c'est un gros travail. Ah. Gros travail interne. Mais non, non, moi je ne suis pas très photo. Mais non, 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 mais on va la faire. Je dis, bon, bah déjà, alors où est-ce que je vais poser mon regard pour ne pas regarder l'objectif? Là, j'étais en train de penser à ça. J'ai vu des citrons loin, donc je vais les regarder. Donc je vous invite à faire votre photo. Ah la vache.
Voilà, vous apparaissez.
Oh, cette tête. Oh, la déprime. C'est terrible.
Oh.
Il y a quelque chose de terrible quand même, Rebecca.
Bah, vous n'êtes pas souriant du tout, quoi.
Mais oui, on se dit, mais il est déprimé. On peut pas refaire une photo plus joyeuse?
Allez.
Voilà, je pense qu'on va mieux s'en sortir, là. Parce
vous avez pensé à quoi?
Bah, ça a été trop vite. Non, non, vraiment, j'ai pas... J'ai tenté... Non, mais je me rendais compte. Alors, celle-là, elle est un peu plus joyeuse. On peut refaire une troisième ou c'est... Franchement, si on en fait une petite troisième, je suis pas...
Allez, allez.
En fait, je vais essayer de regarder l'objectif. Ça va peut-être être mieux, en fait.
D'accord.
Parce que là, les deux, là, c'est... Je vais faire un petit sourire. Voilà, un petit sourire de face, parce que là, vraiment... Attendez, s'il vous plaît.
Oui.
Voilà.
Vous me dites top, d'accord?
Quand vous voulez. Je pense que là, ça peut aller.
La troisième vous va?
Ouais, elle est mignonne, celle-là. Mon œil est un peu fatigué, mais il y a un truc sincère. J'aime bien. Qui garde ce Polaroid, alors, du coup? C'est un souvenir pour moi ou vous?
Pour moi.
Ah, c'est dans votre collection?
Pour les réseaux.
Les fameux réseaux que Claude Nougaro...
Bah, vous y êtes, hein?
Ah bah oui, bah je joue le jeu. J'ai plus le choix. Comment vous voulez que je fasse? Ils m'ont eu, hein. On revient encore, je suis dans le moule. Hein. Je suis pas au-dessus, je suis pas en bas, je suis dans le moule. Je suis fondu dans la masse. La fameuse masse, voilà, la masse de papa et maman.
Merci Thomas et Gijol.
Bah non, bah merci à vous Rebecca, c'était un vrai plaisir. Puis je remarque en plus grâce à votre photo que j'ai un bouton qui pousse à gauche. Donc ce soir, c'est un petit patch. Voilà. Voilà. Ouais.
Indomptable de et avec Thomas et Gijol est en salle mercredi prochain. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totémique avec Laurent Baudouin ce matin, Perrine Malinge programme nos invités, Célestine Babinet a préparé l'émission et Jean-Baptiste Audibert choisit la BO de Totémique qui comptait Bertrand Belin et la londonienne Joy Crooks aujourd'hui.